Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Notre deuxième partie de De quoi je me mêle avec beaucoup de plaisir, j'accueille Christophe Joly qui est de retour. Salut Christophe.
Oui, salut François.
Tout va bien Christophe?
Tout va bien.
Et bonne année.
Oui, bonne année, dis donc.
Oui, parce qu'on
oui, on est déjà presque
encore
à la fin du mois.
Et... ouais, mais on a encore quelques jours pour se souhaiter...
Tous mes vœux de succès.
Voilà, et tous nos vœux, mon cher Christophe, aussi pour toi. Et on nous souhaite, toi et moi, encore plein de chroniques nostalgiques, parce qu'on adore ce rendez-vous.
Avec grand plaisir.
Qui nous permet de nous replonger un
et
peu
les
dans,
sujets
dans,
sont infinis, hein.
Dans l'histoire abracadabranque de la tech, avec des innovations qui, aujourd'hui, ont révolutionné notre quotidien. Ça va être encore le cas aujourd'hui, puisqu'on va évoquer un truc qu'on utilise quasi au quotidien, le QR code.
Voilà, le QR code. Avant le QR code est né en 94. Donc, il a quand même quelques années désormais. En 94, la France compte 500 000 d'internautes. Alors, ça va faire sourire hein, quand on voit tous ces chiffres. Soit environ 16% de la population. Un Français sur 6 possède un micro-ordinateur. 10% des Français, écoute-moi bien, perçoivent l'informatique comme une chose négative. 10%, c'est quand même
94, donc il y a 30 ans.
Voilà, il y a 30 ans. C'est l'année de la création d'Amazon, c'est l'année du lancement de la PlayStation, et c'est aussi l'année, moi j'avais oublié ce produit, alors qu'il n'a pas marché très longtemps, c'est le lancement le 17 février 94 du QuickTake par Apple, qui était un appareil photo numérique. C'était le premier téléphone, pas téléphone, mais appareil Apple qui ne fonctionnait qu'avec les appareils Apple. Steve Jobs l'a arrêté en 97
photo.
Ouais, un appareil photo. J'avais complètement oublié l'existence de ce petit bout de plastique qui n'a pas laissé.
Grand souvenir. Il y a pas mal d'échecs d'Apple. Hein.
Ouais, quelques-uns. Ouais. Mais celui-ci, c'est un petit échec parce qu'on ne s'en souvient même pas.
Donc, 94, c'est cette année-là que. On commence à réfléchir au QR code.
C'est un ingénieur, en fait, un ingénieur au Japon qui s'appelle Masahiro Hara. Il est ingénieur pour Denso Wave, qui est une filiale de Toyota, équipementier automobile. Il a l'idée de ce QR code pouvoir pister ou tracer les pièces détachées qui sont en transit. Donc il met des QR codes, mais à un moment donné, pas des QR codes, mais des codes barres. Et à un moment donné, il y a beaucoup de codes barres sur les pièces. Ouais. Du coup, il se dit comment faire pour regrouper tous ces codes barres en un seul code. Donc il a cette idée en 94. Le QR code, ça veut dire Quick Response. Et l'intérêt, c'est que les données sont rapatriées très rapidement. Comme un code barre, mais beaucoup plus de données, tu vas le voir. Donc son idée, c'est ça, sachant que son patron de l'époque ne lui donne aucun budget. Il lui, il laisse du temps, il est OK. Donc
vas-y.
Il est dans un bureau tout seul avec son petit ordi.
Amuse-toi, mais t'as pas de sous.
Voilà. Mais il trouve la solution quand même, et donc la solution est déployée en 94. Il s'inspire du Go, le jeu de stratégie, on va dire, avec des petits cubes noirs ou blancs. Et son idée, donc, c'est de regrouper tous ces éléments, d'autant de codes barres sur un seul QR code, sachant qu'un QR code peut stocker jusqu'à 7089 caractères numériques ou 4296 caractères alphanumériques. Pour info, un code barre peut en stocker une douzaine.
Donc, en gros, un QR code, c'est un super, super code barre.
C'est ça, c'est un super, super code barre, sachant qu'il a un avantage important, c'est qu'il est encore lisible, même s'il est abîmé à hauteur de 30%.
Ah,
un
d'accord.
Code barre, tu le biffes.
C'est mort.
Une seule barre, c'est mort.
Ouais.
Alors qu'un QR code, pour le coup.
Ouais, on peut, si par exemple, il y a quelques petits dessins du code barre qui sont effacés, malgré tout, l'appareil photo qui le prend arrive à le reconstruire.
Voilà, et c'est pour ça que parfois les QR codes ne sont pas complètement lisibles en fonction de la luminosité. Et ça marche quand même. Voilà.
C'est génial cette invention quand même. Hein.
C'est mort. Donc c'était quand même une révolution à l'époque. Il restera dans les usines de Denso pendant 5 ans. Mmh. Et en 99, le QR code. S'ouvre au grand public, on va dire, sachant que Denso décide de le donner sous licence libre.
Wow.
Donc tout le monde peut reprendre ce... C'était l'idée de cet ingénieur.
Ça, c'est hyper généreux quand même. Hein.
Bah ouais, c'est très généreux parce qu'ils auraient pu le garder pour eux.
S'ils avaient déposé un brevet et que... Alors peut-être que ça n'aurait pas marché finalement.
Peut-être pas, mais dans les faits, ils ont décidé que tout le monde pouvait...
Utiliser
le QR code. Donc ça se développe au Japon dans les années 2000, avec l'avènement des smartphones, mais dans un premier temps, uniquement au Japon. Mais là-bas, c'est vraiment un carton. Hein. Dès 2003, tout le monde s'approprie le QR code pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il suffisait d'avoir un smartphone avec un capteur photo, avec un appareil photo pour lire un QR code.
Et bien sûr.
On le verra tout à l'heure, ce n'était pas le cas en France.
Et oui.
Il fallait télécharger une appli, on reviendra dans le détail. Mais là-bas, un point tel que certains faisaient tatouer un QR code sur le bras avec leurs coordonnées, leur numéro de téléphone ou leur carte de visite. C'est quand même étonnant parce qu'un tatouage, ça a vocation à être pérenne quand même.
Au moins, tu es sûr que tu as toujours tes coordonnées sur toi. Quoi.
Voilà.
C'est pratique.
Sachant que l'iPhone ne permettra de lire les QR codes de façon directe que bien des années après ce que permettaient les smartphones au Japon. Donc, il faudra un petit peu de temps pour que le QR code sorte du Japon, s'attaque aux autres pays. Je vais donner quelques données intéressantes, parce que le QR code au début est perçu comme un gadget. Je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où on commençait à en parler au début des années 2000, moi j'étais à 20 minutes, on commençait à faire des papiers là-dessus, mais on voyait que ça ne perçait pas en fait. Les gens n'avaient pas encore le réflexe de se...
On ne savait pas trop à quoi ça servait
voilà,
finalement.
On savait pas trop à quoi ça servait. Mais c'est passé quelque chose qui a vraiment changé la donne.
Bien sûr.
Mais pendant que le QR code se développait au Japon, la France a lancé le flash code.
Oui.
Voilà, le flash code, c'est la même idée. C'est ce qu'on appelle un code en 2D, en deux dimensions.
D'accord.
C'était créé par l'Association française du multimédia mobile. C'est une technique analogue qui s'appelle Data Matrix. Là, l'inconvénient, c'est qu'il fallait télécharger l'appli flash code pour pouvoir lire le QR code. Donc, il fallait passer via l'appli. C'est une passerelle qui...
C'était donc, à partir du moment où tu téléchargeais pas l'appli, ton appareil photo ne décodait pas le QR code. Donc,
donc c'était un problème.
Ouais.
L'autre particularité, c'est que ça passait via les opérateurs de téléphonie mobile. C'est eux qui redirigeaient ensuite un site web. Et comme à l'époque, c'était assez cher, ils refacturaient à la hauteur de ce que tu téléchargeais comme contenu. Donc, voilà.
C'était pas terrible. Quoi.
C'était pas terrible. Ça coûtait. C'était pas très intuitif. L'autre inconvénient, c'est que les touristes étrangers ne pouvaient pas utiliser le flashcode.
Et oui, puisque c'était français.
Parce que c'était français et lié aux opérateurs français.
Okay.
Alors désormais, c'est aussi en utilisation libre. On peut quand même reconnaître au QR code d'être rentré dans le Robert et le Larousse. La définition, c'est nom masculin, code barre 2D de la marque de ce nom. Voilà. Ils sont pas cassés la tête.
Okay.
C'est le nom du flashcode. On a aussi une autre particularité en France, c'est le 2D doc. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais quand tu payes une amende, ça t'arrive de payer des amendes ?
Ça m'arrive, oui.
Voilà. Eh bien, c'est du 2D doc. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui a développé ce principe de QR code, donc spécifique, en 2012. Et ça sert aussi au pass vaccinaire, au pass sanitaire.
Oui, le pass sanitaire.
Pendant le Covid.
Mais tiens, tu parlais d'amende. Il se trouve que j'ai dû en payer une il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, j'ai téléchargé l'appli sur mon iPhone. J'ai scanné le code, tu sais, qu'il y a sur le papier que tu reçois.
Oui.
Ça ne marchait pas. En fait, l'appli était buggée. C'est un truc, d'ailleurs, là, je ne sais pas, moi, s'il y a des développeurs ou s'il y a des responsables de cette appli qui nous écoutent, qui nous regardent, checker, parce que franchement, c'est inutilisable.
Donc,
quoi.
Tu n'as pas pu payer ton amende.
Oui, il a fallu que je recopie le numéro de télépaiement sur l'application. Mais c'est dommage, parce qu'il y a un QR code, c'est vachement plus pratique.
Bah oui, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est direct. Alors, il faut
savoir. Double peine, tu payes et en plus, ça ne marche pas.
Voilà. Donc, c'est quand même... il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2012, 97% des Français, selon une étude de INC, ne savent pas ce qu'est un QR code. 97%.
En 2012
En 2012, il y a encore du boulot. Et 6% des Américains ont utilisé un QR code une seule fois. Donc 6% en une fois. Donc il y a beaucoup de travail. Bon, tu sais ce pourquoi le QR code s'est développé ?
Évidemment.
C'est la fameuse pandémie. Ça a explosé, vraiment, le QR code, ça servait au pass sanitaire, mais ça servait aussi au restaurant. C'était l'avantage de ne plus manipuler les menus.
Le sans contact.
Le fameux
sans
contact.
En fait, un sans contact, sans NFC, quoi. C'est-à-dire très simple,
l'utilisation. Voilà. Puis vraiment simplissime.
Bien sûr.
Effectivement, tu l'as dit. Un chiffre qui permet de mesurer l'importance du QR code et là où ça a explosé pendant le Covid, le 13 octobre 2021, 600 millions, quasi 600 millions de certificats européens ont été utilisés via un QR code.
Waouh.
Voilà, 600 millions. Et en France, 137 millions de certificats sur une seule journée. Il y a un peu plus de 66 millions d'habitants, tu te rends compte ? Donc c'est quand même très conséquent.
C'est incroyable.
Aujourd'hui, ça permet quoi le QR code ? On va le voir ensemble rapidement. Ça permet d'aller sur un site web, de regarder une vidéo, de se connecter à une borne Wi-Fi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand il faut taper le code WPA, c'est quand même vachement plus facile avec un...
Ça, c'est super pratique, en fait.
Ah oui, c'est quand même pratique. Si tu veux partager ta connexion Wi-Fi à la maison avec quelqu'un, ça prend quelques instants. Tu peux consulter un menu, effectivement. Tu peux aussi payer. Il y a des solutions désormais de paiement. Tu ne bouges pas ta table et tu payes via un QR code.
Ouais.
C'est une appli qui s'appelle Sunday, notamment, qui permet de faire ça, et c'est super simple. Tu peux scanner ton billet de concert, évidemment, ton billet de train, ta carte d'embarquement, un audio guide dans les musées. Tu peux, sur ta télé, te connecter à Netflix, par exemple, via le QR code sur l'écran, envoyer des questions.
Ça t'évite de rentrer ton login et ton mot de passe, c'est vachement plus rapide.
C'est quand même beaucoup plus rapide. Tu peux faire des paiements, on l'a dit, tu peux avoir des cartes de visite, ajouter un événement dans ton agenda. Ça sert vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Désormais, c'est rentré dans les mœurs. Tu vas dans un supermarché, tu as un QR code, tu peux avoir des infos nutritionnelles, par exemple, sur une appli, tu peux avoir des promos. Et en 2013, il y a même un truc en moi que je trouve un peu glauque. Il y a des QR tombales qui ont été lancées, c'est-à-dire qu'il y a un QR code dans les cimetières, sur les tombes, qui permettent d'avoir des souvenirs, des petites vidéos de la personne décédée.
Wow.
Je ne sais pas dans quelle mesure. Moi, je trouve ça glauque.
Ouais, c'est un peu glauque.
Mais ça entretient la mémoire, disent les fondateurs, les créateurs de ce QR code. Alors moi, je ne suis pas fan, mais après tout, chacun fait
après,
ce qu'il veut.
Après, voilà... Chacun est maître de la manière dont il veut qu'on garde un souvenir de lui, c'est sûr. Mais c'est assez étonnant, tiens.
Voilà, c'est assez étonnant. Alors désormais, le QR code, on l'a dit, fait partie de notre quotidien. En 2022-2023, l'augmentation est de 400% de l'utilisation de la génération des QR codes et de l'utilisation. 59% des Américains pensent que ça va s'installer sur la durée. 75% estiment qu'ils vont plus utiliser les QR codes à l'avenir. Et à ton avis, quel est le classement ? Le top 5 des pays où on utilise le plus de QR codes ? Moi, j'étais un peu surpris.
Tiens. Moi, j'irais la France.
La France, c'est troisième.
Troisième, d'accord.
Ouais. Alors, tu prends le bassin des populations. Le premier, c'est les États-Unis.
Les États-Unis, bien sûr.
C'est pas déconnant. Ouais. Le deuxième, c'est l'Inde. Mais la France, c'est troisième.
Ok. Pas mal quand même.
Pas mal quand même, oui, parce qu'on est presque à 500 millions d'utilisations.
Et c'est dû à quoi, ça ? C'est le stop Covid, tu crois ou...
Je pense que ça fait partie des choses. Peut-être qu'on est plus en avance au niveau de l'installation du nombre de smartphones.
Ouais,
parce que c'est très indexé à ça.
Et puis, c'est vrai qu'il y avait une obligation quasi en France, à l'époque de tous anti-Covid. Il fallait que tu scannes ton QR code pour pouvoir...
Enfin, pouvoir le scanner sur toi.
Tu scannais ton document de vaccination pour que ça arrive sur ton téléphone.
C'est ça.
Pour que tu aies ton passe vaccinal après.
C'est ça.
Donc on était un peu obligés.
Alors tu peux voir le papier, mais dans les faits, c'était quand même beaucoup plus pratique. Tu étais sûr de l'avoir toujours sur toi. Et le quatrième, c'est la Grande-Bretagne. Et le cinquième, c'est le Canada. Globalement, on se sert, je ne sais pas toi, dans quelle proportion tu te sers des QR codes et pour faire quoi ?
Moi, c'est le resto. La plupart du temps, c'est le resto, vraiment.
Bon, ça concerne la grande majorité.
Après, je me sers de Yuka, mais Yuka, c'est pas le QR code, c'est le code barre.
C'est le code barre, effectivement.
Tu sais, quand tu vas faire tes courses et tout, tu regardes un peu les propriétés nutritionnelles.
Hein. Ouais. Tu as plus d'infos. Globalement, la moitié des utilisateurs se servent de QR code pour aller vers un site internet, une URL, donc consulter un menu, effectivement. L'autre moitié, un peu moins de la moitié, un tiers, c'est pour récupérer de la data, une vidéo, quelque chose qui est stocké sur le QR code.
Ouais.
Donc, on télécharge un élément qu'on va récupérer, puis ensuite, c'est l'échange de carte visite ou de choses comme ça. Le paiement fait partie des choses qui vont se développer. Selon une étude Juniper Research, d'ici 2025, le paiement par QR code va générer 3 000 milliards de dollars.
C'est incroyable.
Donc ça veut dire que ça va vraiment s'imposer.
Est-ce que c'est sécurisé, le QR code ?
C'est le sujet. T'as deux types de QR codes. T'as les QR codes statiques, qui eux sont figés et qui peuvent être reproduits. C'est le problème des billets de concert, par exemple. Si je te revends un billet de concert avec un QR code, tu vas scanner le code, ça va passer, tu vas rentrer dans la salle. Si je le revends à plusieurs personnes, ceux qui vont passer après... ça va être déjà scanné.
En fait, comme il aura été validé une fois,
c'est mort.
Ça ne marchera plus.
Voilà. Donc la solution, c'est le QR code dynamique qui est renouvelé. C'est ce qu'ont fait certains revendeurs officiels, distributeurs, des tourneurs de concerts. C'est-à-dire que le code est rafraîchi toutes les 30 secondes. Ça peut être paramétré. Et du coup, le téléphone est associé au QR code et tu ne peux pas le reproduire. Donc ça, c'est relativement sécurisé. Ensuite, ça dépend de la nature des infos qui sont sur le QR code. Mais si tu te souviens, le QR code du pass sanitaire de Emmanuel Macron et de Jean Castex avait fuité sur le web, avec des infos confidentielles.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est relativement sécurisé, mais faut pas laisser traîner ces QR codes. Donc c'est pas une bonne idée de le mettre sur le web, par exemple, sur les réseaux sociaux.
Bien sûr. Oui, ou sur Twitter. Oui, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux.
Et il y a pas mal d'arnaques, notamment récemment, en un mot, sur une borne électrique. Des escrocs ont mis un autocollant avec un faux QR code qui irait envoyé vers un site factice qui récupérait les données bancaires. Quelques personnes se sont fait arnaquer de quelques dizaines d'euros, mais soyez vigilants désormais à ce que vous scannez comme type de QR code.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christophe.
Merci à toi.
C'était passionnant, cette histoire.
Donc, continuez à scanner, mais pas n'importe où.
Qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Merci, Christophe.
Merci beaucoup.
Christophe Joly, donc, pour terminer ce De quoi je me mêle. Un grand merci de nous avoir suivis, d'être fidèle à ce rendez-vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, en podcast vidéo ou en podcast audio. Tiens, si vous êtes en audio, petit module bonus qui arrive juste après. Si vous nous téléchargez par exemple sur tous les agrégateurs de podcasts ou Apple Podcasts, petit bonus qui arrive tout de suite. À très vite et merci de nous suivre.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.